73 000 morts chaque année en France. Imaginez un tiers de la population rennaise tuée par le tabagisme. Des chiffres et des comparaisons de ce type, on en entend beaucoup, mais pour une efficacité qui semble nulle. La faute à qui ? Aux buralistes qui ne demandent pas la carte d'identité des mineurs ? Au marketing qui réinvente le paquet de clopes et rend l'acte d'achat branché ? Au cinéma qui banalise ou esthétise le geste ? Ou si c'était tout simplement la responsabilité du politique ? Certes, il y a eu les hausses de prix, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le paquet neutre et les campagnes de prévention du ministère de la Santé, mais la cigarette est toujours présente au quotidien. On la voit allumée ou écrasée, on la sent que l'on aime ou que l'on déteste cette odeur, on lui trouve des alternatives, parfois électroniques. En novembre dernier, des chercheurs britanniques publiaient une étude selon laquelle 69% des personnes qui ont essayé de fumer une fois ont continué à fumer quotidiennement, au moins de manière temporaire. Tout se jouerait donc dès la première taf. Alors le tabagisme peut-il disparaître? Et si oui, comment? Et plein d'autres questions, tout de suite, dans Chercheurs en ville. Bonjour à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invitée aujourd'hui est Karine Gallopel-Morvan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en marketing social à l'École des hautes études en santé publique et vous répondrez aujourd'hui aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à vos côtés, évidemment, Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, notre partenaire. Colette, c'est à vous.
Le tabac est devenu un produit de luxe. Aujourd'hui, même les cigarettes brunes, les très prolétaires gauloises ou gitanes, coûtent aussi cher que les blondes, soit 7 à 8 euros le paquet. Et les fumeurs s'apprêtent à encaisser une prochaine hausse de 1 euro supplémentaire en mars. Le gouvernement a établi un calendrier pour monter le prix du paquet de cigarettes, qui atteindra les 10 euros à l'automne 2020. Karine Gallopel-Morvan, frapper les fumeurs au porte-monnaie, est-ce efficace pour les inciter ou les contraindre à décrocher ?
Alors oui, c'est efficace pour baisser le pourcentage de fumeurs dans un pays, mais ce n'est pas suffisant. Donc en France, le gros problème qu'on a par rapport au tabagisme, et la difficulté qu'on a depuis 10 ans à faire baisser le pourcentage de fumeurs, est lié à justement un problème, c'est que le tabac est très bon marché. Vous dites que ça devient un produit de luxe. Pour à peu près 4,50 euros ou 5 euros, vous pouvez fumer 20 cigarettes en France en fumant du tabac à rouler. Donc on ne peut pas dire que ce soit très cher. On a fait des études, par exemple, sur les jeunes, là, il y a un an, où ils nous disaient, bah non, moi, en fait, je continue à fumer du tabac à rouler parce qu'en termes de budget, bah, c'est à peu près 20 ou 30 euros par semaine, ce qui est tout à fait correct. Voilà. Donc avec le tabac à rouler, même si le tabac à rouler a augmenté, ça reste encore très accessible. Alors dans les pays où vraiment le pourcentage de jeunes fumeurs, le pourcentage de fumeurs dans la population a véritablement réduit, comme la Grande-Bretagne ou l'Australie. Vous parliez de 7 euros le paquet en France. En Australie, le paquet, il est à 20 euros. Donc forcément, on a plus du tout les mêmes rapports. Et donc, le pourcentage de fumeurs est à 12%. Donc encore une fois, il n'y a pas eu que le prix, mais il y a eu vraiment une mesure choc autour du prix. En Grande-Bretagne, on est à peu près à 15% de fumeurs, avec également un paquet de cigarettes qui est autour de 13-14 euros. Donc en France, on est à 7 euros, donc ça reste peu cher par rapport à d'autres pays, étant donné notre pouvoir d'achat. Et le problème également, c'est que depuis un certain nombre d'années, ça n'a pas du tout augmenté, ou en tout cas pas de manière suffisante. Donc ce qui fait que les augmentations des 10 dernières années étaient à chaque fois de l'ordre de 6%. Et on sait très bien que 6%, c'est pas suffisant pour augmenter l'envie d'arrêter de fumer chez les jeunes et chez la population en général. Il faut 10% de manière régulière pour que ça puisse avoir un effet. Donc les augmentations de ces dernières années de 6%, c'était très bien pour Bercy, qui voyait les taxes augmenter, pour l'industrie du tabac, qui voyait ses bénéfices augmenter, pour les buralistes. Mais c'était absolument pas quelque chose d'important et d'intéressant pour la santé publique. D'ailleurs, tous les acteurs de la santé publique étaient contre ces augmentations de prix de 6%. Il faut 10% de manière régulière.
Christian Lebar.
Oui, alors cher ou pas cher, évidemment, ça dépend de chacun. Ma question, ce serait autour de... qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du profil des fumeurs ? Est-ce que le tabac est un loisir interclassiste, comme on dit en sciences sociales, comme le football et Johnny Hallyday, ou est-ce qu'on peut faire un profil de fumeur ? Et question subsidiaire, est-ce que ces différents publics sont... parce qu'une campagne visant à inciter les gens à moins fumer doit aussi s'adapter à son public. Donc quand on dit 6-7 euros auprès d'un public étudiant, ça n'aura pas le même impact qu'auprès de...
Alors, c'est pour ça que je disais que c'est important d'augmenter les prix, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, alors, dans les dernières enquêtes en population nationale, hein, on voit que... On a des populations qui ont plus de difficultés que d'autres à arrêter de fumer. Et par exemple, il y a une augmentation de la prévalence de la consommation de tabac chez les populations défavorisées. Les femmes également ont un certain nombre de difficultés par rapport aux hommes à réduire leur tabagisme. D'ailleurs, les augmentations nationales entre 2005 et 2010, on a vu une augmentation de plus de 2 points de la prévalence tabac en France, qui n'était pas arrivée depuis longtemps, sont liées à la reprise du tabagisme pour les femmes de 45 ans et plus, et donc une augmentation forte de ce tabagisme chez ces femmes qui ont probablement arrêté parce qu'elles ont dû avoir des grossesses, voilà, et elles ont repris après. Et puis la population défavorisée. Donc c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir une politique à la fois active sur le prix, parce que c'est la mesure vraiment fondamentale et importante pour réduire le pourcentage de fumeurs, accompagnée, bien sûr, d'aide à l'arrêt. Alors, même si c'est pas l'idéal, on peut quand même noter les efforts de... du gouvernement et ce qui a été fait ces dernières années. Par exemple, l'aide à l'arrêt du tabac, notamment sur les populations défavorisées. Auparavant, on pouvait être remboursé de 50 euros pour les substituts nicotiniques. Hein, aujourd'hui, on est passé à 150 euros. On a également un certain nombre d'aides. Alors, c'est clair que ce n'est pas suffisant, mais un certain nombre d'aides qui se sont déployées ou de programmes qui se sont déployés, qui essayent de toucher et de viser les populations défavorisées. Moi, Sans Tabac essaye, donc la grande campagne nationale hein, pour inciter les gens à arrêter de fumer au mois de novembre, essaye d'avoir un peu un ciblage sur les populations défavorisées, mais c'est clairement insuffisant. Mais là aussi, c'est lié au manque de moyens dont on dispose en France pour lutter contre le tabac. On sait qu'aujourd'hui, si on veut lutter de manière efficace contre le tabac, il faut dépenser à peu près 1 euro par an et par habitant. En France, dans les dernières années, on était à peu près à 10 centimes d'euros par an et par habitant. Donc typiquement, pour cibler des populations qui ont probablement plus de difficultés que les autres, pour plein de raisons, leur environnement, etc., à sortir du tabac, il faudrait des programmes ciblés, pas seulement des campagnes de com', hein, mais vraiment un accompagnement sur le terrain pour aider ces gens-là à arrêter de fumer. Et aujourd'hui, ça manque, très clairement.
Quand on est soutenu, tout devient plus facile, même arrêter de fumer. Alors, en novembre, on arrête ensemble et en équipe. Que vous soyez sportif endurci ou sportif du dimanche, fêtard ou pantouflard, arrêtez de fumer pendant un mois avec l'équipe qui vous ressemble. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Rejoignez votre équipe Moi sans tabac sur tabacinfoservice.fr.
Puisqu'on parlait des fumeurs pauvres, démunis, aux fins de mois difficiles, le sociologue Patrick Peretti-Vatel, il dit que... pour les pauvres, le tabac, ça permet de gérer le stress, de surmonter les coups durs de la vie. Et pour les riches et les classes aisées, c'est le support des relations sociales. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je pense qu'on n'a pas suffisamment d'études en France réalisées sur ces questions-là pour pouvoir répondre de manière tranchée. Les travaux de Patrick Peretti-Vatel sont des travaux... qui ont été menées en France sur des échantillons qui ne sont pas forcément toujours représentatifs à travers des méthodologies qualitatives. On entend beaucoup aussi que les fumeurs pauvres, finalement, c'est le seul plaisir qu'il leur reste, etc. C'est pas validé sur un échantillon très large. Voilà. Il faudrait vraiment... Et pour les mêmes raisons que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la prévention, on n'a pas suffisamment d'argent pour faire de la recherche au niveau du tabac. Et comparativement avec des pays plus avancés sur le tabac comme la Grande-Bretagne ou autre, on n'a pas forcément énormément d'études qui ciblent et qui explorent les motivations, les freins à l'arrêt du tabac sur les populations défavorisées et les programmes qui marchent.
L'impression qu'on a, mais alors vraiment, c'est très impressionniste, mais c'est que les programmes anti-tabac, comme vous dites, ont été assez efficaces du côté des classes cultivées, des élites sociales, et semblent avoir été beaucoup moins efficaces auprès des milieux populaires, de telle sorte que le comportement tabac, de mon point de vue, est aujourd'hui plutôt marqué du côté des milieux populaires. C'est un cliché ou...
Non, c'est la réalité. Alors, ça n'a pas augmenté. En revanche, sur les populations défavorisées, on n'a pas vu forcément une augmentation depuis donc, les années 70. Il faut quand même resituer aussi le contexte de la lutte contre le tabac. Le gouvernement a commencé à mettre en place des politiques anti-tabac à partir des années 70. Il y a eu une baisse très claire de la prévalence en France sur la population globale. Et ça ne s'est pas traduit par une augmentation très forte. Population défavorisée comme les autres, depuis les années 70, la prévalence tabac a baissé. Alors... Si on compare avec d'autres pays, encore une fois, qui sont mieux que nous, il faut quand même bien avoir en tête que la France, on est mauvais sur le tabac. On est à 34,5% de fumeurs à peu près. En Grande-Bretagne, ils sont à 15%. En Australie, 12%. On est vraiment mauvais. Donc, on n'a pas vraiment d'exemple et de conseils à donner.
Je vous interromps. Oui. Vous dites 32, 34, 38% de fumeurs.
34.
Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, combien ?
Alors, il y a 10 ans, on était à peu près à la même prévalence parce que précisément, ça stagne depuis 10 ans. Et donc, si on compare avec les années 70, première date aussi des sondages et des campagnes, enfin des baromètres tabac, on était à peu près à 60-70%. Alors, ça dépendait beaucoup des profils. Les hommes, à l'époque, fumaient beaucoup plus que les femmes. Donc, on avait des prévalences tabac sur les hommes supérieures à 60-70%. Donc, ça a baissé de manière très claire. Les politiques anti-tabac ont baissé, mais on peut beaucoup mieux faire, très clairement. Alors justement, pour répondre à la question de Christian, si on regarde les pays comme la Grande-Bretagne qui ont été beaucoup plus offensifs et qui sont aujourd'hui à 15% et qui étaient à peu près comme nous dans les années 70, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'augmentation du tabagisme chez les populations défavorisées parce qu'ils ont beaucoup mieux accompagné que nous toutes les mesures, l'augmentation des prix, les campagnes choquantes, etc. dans les médias. Ils ont beaucoup plus accompagné en local l'aide à l'arrêt du tabac. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas un endroit, une ville même petite, moyenne, etc., où vous n'avez pas un service disponible pour vous aider à arrêter de fumer. Dans certaines villes en France, et des villes peut-être de petite taille, c'est un, il n'y a pas de service anti-tabac proposé, d'aide à l'arrêt, ou alors dans certaines grandes villes, il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. On a vraiment une pénurie de soutien et d'aide à l'arrêt sur les consommateurs de tabac. Et en Grande-Bretagne, ils ont vraiment fait attention à aider ces populations-là pour les soutenir dans l'arrêt. Et de ce fait, on ne trouve pas du tout une augmentation du tabac chez les populations défavorisées en Grande-Bretagne depuis la mise en place des campagnes et des programmes efficaces.
C'est-à-dire que si on essaie de lister un peu les politiques publiques incitant les gens à moins fumer ou à arrêter de fumer, en gros, on a les campagnes de communication à travers des spots à la télévision, à la radio, etc. Et puis on a les politiques liées au coût du tabac, bien sûr, incitatives ou désincitatives. Et puis on a les dispositifs plutôt de proximité, d'accompagnement. Et c'est celles-là qui font défaut dans le cas français.
Oui, absolument. Alors pas que, dans le cas français, pas que. Mais on sait très exactement aujourd'hui ce qu'il faut faire pour réduire le pourcentage de fumeurs dans un pays. On a la convention cadre anti-tabac qui est proposée par l'OMS, qui est un traité de santé publique qui explique à travers une vingtaine de mesures ce qu'il faut mettre en place pour faire baisser le pourcentage de fumeurs. Les pays qui ont adopté et qui ont mis en place ces différentes mesures ont réussi à atteindre 10%, etc.
Vous nous dites rapidement quelles mesures ?
Le prix, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. Donc le prix, c'est vraiment une mesure phare. L'interdiction de fumer dans les lieux publics. Je vous rappelle quand même qu'en France, ça date que de 2008. On n'est pas si en avance que ça. L'interdiction de vente aux mineurs. Les campagnes, effectivement, dans les médias, les interventions à l'école qui fonctionnent et qui sont évaluées, l'observation sur le trafic illicite, enfin le contrôle du trafic illicite au niveau du tabac et l'aide à l'arrêt du tabac sur différentes populations. Donc,
d'accord.
L'article 14, par exemple, qui traite de l'arrêt du tabac et qui dit vraiment, faut vraiment aider les populations et segmenter en fonction de leur profil. Il faut vraiment aider à l'arrêt du tabac et mettre à la disposition des fumeurs de l'aide à l'arrêt d'arrêt facile, pas chère, gratuite, etc. Donc c'est un peu le principe de Moi sans tabac. Hein, l'idée de Moi sans tabac, c'est quand même la première fois qu'on a une campagne nationale qui est déclinée en local. Donc c'est vrai qu'on oublie parfois, on est un peu habitué maintenant à Moi sans tabac, ça fait la deuxième année, mais c'est une grande nouveauté dans le paysage français puisque c'est la première fois que les différentes aides, que les acteurs en local qui font de la prévention, qui font de l'aide à l'arrêt, les tabacologues, etc., sont embarqués dans cette grande aventure de Moi sans tabac au niveau de la proximité des fumeurs et près des fumeurs. Mais les tabacologues revendiquent souvent ce problème, hein, le fait qu'il n'y a pas assez d'aide à l'arrêt en local et il n'y a pas assez de soutien d'action et de prévention en local. Je ne veux pas faire de procès à personne, mais c'est vrai, quand on regarde quand même la lutte contre le tabac avant Moi sans tabac, je ne pense pas qu'il y avait grand-chose qui était fait au niveau local pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, à travers à la fois des campagnes de prévention locale, ciblées, etc., et de l'aide à l'arrêt particulière. Moi sans tabac, c'est un vrai plus pour ça, parce que ça a réussi, ce programme a réussi à embarquer les agences régionales de santé qui se sont mises sur le tabac en proximité. Et la Cour des comptes, en 2012, avait noté que c'était quand même étonnant que les agences régionales de santé étaient de l'ordre d'à peu près 2 ou 3 en France, sur 17, à mettre en place des programmes de proximité sur le tabac. Donc c'est pas que pour le tabac, hein, ce que je vous dis, on a quand même une tendance en France à faire des programmes qui restent à un niveau national et à pas les déployer
très
en local.
Centralisé, oui.
Il y a eu Moi sans tabac, comme vous dites, et les gens en ont beaucoup parlé, y compris dans les entreprises, les voisins, les familles. Profite donc de cette période. Est-ce que tu vas arrêter? Enfin, il y a un truc un peu populaire pour une fois. Juste, je me souviens. Et là, je travaillais à Ouest France et je n'arrive plus à me souvenir de l'année. C'était il y a peut-être 10 ans. On avait vu un soir tomber la première dépêche et c'était: quel est le produit de consommation courante qui contient 93 substances toxiques? Ça avait été la panique dans les salles de
campagne
rédac.
Campagne révélation.
Est-ce que c'était alimentaire? Et d'un coup, il y a eu la réponse, mais des heures après, j'avais trouvé ça extrêmement efficace. Enfin, oui. Là, les gens en avaient aussi beaucoup parlé. Et tout.
Oui.
On ouvre ce journal avec notre colère face à l'irresponsabilité des propos tenus hier par Nicolas Sarkozy. Il a remis en cause l'instauration du paquet de cigarettes neutres, une des mesures de la loi santé adoptée le 17 décembre dernier, et qui prévoit qu'à partir du mois de mai, tous les paquets de cigarettes aient la même taille et la même couleur. Le nom de la marque sera sobrement inscrit en petits caractères, laissant toute la place au message d'alarme. Et pour étayer son propos, Nicolas Sarkozy s'est appuyé sur l'argument de la défense de notre terroir.
Voici ses propos exacts. Si nous acceptions le paquet de cigarettes neutres, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre et s'en sera fini de nos appellations, s'en sera fini de nos terroirs, s'en sera fini de la défense de nos savoir-faire. Vous aurez demain des intégristes qui vous demanderaient la bouteille neutre, puis le fromage neutre.
Cette année-là, en janvier, on fête, si j'ose dire, le premier anniversaire du paquet neutre. Donc, il est arrivé tout moche, tout marronasse, chez les buralistes qui ont crié au scandale. Les esthètes ont regretté, bien sûr, les beaux paquets de gitane et de camel. Bon, je fais de la pub, au secours.
Malbon.
Voilà.
Vous nous faites un petit bilan du paquet neutre?
Alors en France, c'est en cours d'évaluation, donc c'est difficile de dire ce que ça a donné concrètement pour le moment. Il y a deux campagnes d'évaluation là, qui sont en cours, donc on aura probablement les résultats dans quelques mois. Ce que l'on peut dire, alors les ventes de tabac, c'est pas le seul indicateur, mais les ventes de tabac ont baissé de 2 points en 2017. C'est difficile de vous dire que c'est juste le paquet neutre, parce qu'il y a eu Moi sans tabac, il y a eu l'augmentation des 15% du tabac à rouler, etc. Donc et puis de toute façon, on le sait, hein, c'est vraiment une pluralité de mesures et une combinaison de mesures qui explique la baisse du tabac. Alors le paquet neutre... si on prend du coup des pays qui ont un peu plus de recul et qui ont évalué, comme l'Australie, hein, le paquet neutre, ça a été mis en place en 2012 en Australie. Donc la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande, aujourd'hui on est à peu près à 15 pays là, qui ont suivi, qui ne l'ont pas encore mis en place, hein, mais qui vont le mettre en place dans les prochaines années. L'Australie, ils estiment, avec leurs évaluations, que le paquet neutre a engendré à peu près 0,5% de baisse, donc à lui seul, hein, en isolant les hausses de prix, etc. 0,5% de baisse du de fumeurs en Australie. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais si vous mettez ça à l'ordre de 16 millions de fumeurs en France, bah, c'est pas mal si on arrive à faire baisser de 0,5% ce pourcentage de fumeurs en France. Et le paquet neutre, il avait, au-delà de l'impact sur les comportements, l'important, la priorité par rapport au paquet neutre et le rôle qu'il doit jouer dans des campagnes de prévention anti-tabac, c'est qu'il a cassé un des derniers outils du marketing de l'industrie du tabac et qu'il a permis également d'éviter de tromper les consommateurs, parce que l'industrie du tabac, elle est très très efficace pour faire des études et pour s'adapter aux lois, à ce que veulent les fumeurs, etc. Bon, la tendance bio, elle est là aujourd'hui, hein, organique, bio, et donc les industries du tabac sortaient des paquets bio et 100% tabac, sans additifs, etc. Et nous, dans les enquêtes qu'on a menées sur les fumeurs, on se rendait compte que les fumeurs avaient l'impression que c'était un produit moins dangereux, et du coup, ça reporte l'envie d'arrêter de fumer, parce que, oh, ok, je vais fumer cette marque-là, elle est moins dangereuse que d'autres. Et donc, évidemment, c'était le but de l'industrie du tabac, comme pour les cigarettes légères. Et le paquet neutre enlève cette possibilité de faire du marketing trompeur.
On y reviendra longuement sur le marketing. Moi, j'avais compris que le paquet neutre, c'était beaucoup pour dissuader les jeunes de commencer. Et tellement il est répulsif, ce paquet moche, etc., c'est fait pour. Aussi, de décourager des gens de reprendre, enfin, comment dire.
Des ex-fumeurs, oui. Dans les études qui ont été faites en Australie et puis nous, les études exploratoires qu'on a pu faire avant la mise en place du paquet neutre en France, on a trouvé que ça touchait plusieurs profils, pas seulement les jeunes. C'est vrai que les jeunes, ils sont attirés par des côtés, des paquets de cigarettes très originaux, rigolos, etc. Et on y reviendra tout à l'heure, probablement. Mais un autre public qui est très sensible également à l'esthétique du paquet, ce sont les femmes. Et on avait fait une étude qui a été publiée là, sur les femmes. On leur avait demandé d'utiliser pendant 10 jours le paquet neutre, hein, donc avant qu'il soit mis en place en France. Et on a pu ressortir vraiment un effet intéressant sur ce profil-là, parce qu'elles étaient beaucoup plus gênées de sortir leur paquet, c'était moche, elles avaient l'impression de fumer un tabac qui était moins bon, alors que c'était le même, hein, c'était les mêmes cigarettes qu'elles fumaient auparavant. Et le côté esthétique et de mettre dans son joli sac à main un paquet très moche avec des images horribles, ça les gênait vraiment beaucoup. Et du coup, elles nous disaient aussi, par exemple, qu'elles laissaient beaucoup moins traîner leur paquet, et ça, c'est important, parce que quand vous avez des enfants, plus votre paquet, il est visible, et plus le tabac est visible de manière générale dans la société, et plus il est banal et normal. Et donc le paquet neutre, ça a aussi cet intérêt-là, c'est que les gens, ils vont plus le cacher, et donc les enfants vont beaucoup moins le voir comme un produit de consommation courante. Et ça, en Australie, ça a été évalué, par exemple, hein. Sur les tables des bars et des restaurants, ils se sont rendus compte qu'avec la mise en place du paquet neutre, le paquet de cigarettes avait beaucoup plus disparu des lieux publics.
Absolument. Christian Lebar.
Oui, alors là, on pose une question redoutable du point de vue des sciences sociales, qui est celle de l'évaluation des politiques publiques. Alors évidemment, dans les conversations ordinaires, hein, cette évaluation, on la fait sur un mode très, 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 très rapide, qui consiste à dire, en telle année, il y a eu telle mesure, le paquet neutre, le mois sans tabac, etc. Et puis, on a, de l'autre côté de la boîte noire, ce qui sort, c'est-à-dire le nombre de cigarettes vendues, ou le nombre de fumeurs, etc. Alors, ma question, c'est comment vous travaillez, enfin vous, à la fois personnellement et puis les gens qui sont dans votre discipline qui travaillent sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des dispositifs plus fins qui permettent de cerner des comportements de groupe, voire des trajectoires individuelles, à quelle échelle on travaille, voilà, c'est...
Alors, comme souvent en sciences sociales, effectivement, l'évaluation des politiques publiques, c'est un sujet très complexe. On essaye au maximum de trianguler. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser différentes méthodes pour voir en fait si les résultats qui sortent des différentes méthodologies se regroupent. Hein. Donc nous, par exemple, alors typiquement sur le paquet neutre, je pense que absolument personne aujourd'hui n'est capable de dire en France là sur la baisse de 2 points de la vente de tabac en 2017 à quoi est due cette baisse, parce que ça peut être moi sans tabac, ça peut être le prix, ça peut être le paquet neutre. Donc on regarde quand même...
Ou les mentalités qui évoluent
Oui, je ne suis pas sûre qu'elles évoluent toutes seules, mais ou des campagnes, bon. Mais donc on regarde effectivement ces chiffres-là, donc souvent ce sont des baromètres, donc des enquêtes très régulières qui sont menées sur la population, basées sur du déclaratif pour évaluer le pourcentage de gens qui fument. Donc ça, ce sont des données globales et on a bien du mal dans ces données globales à essayer de voir quelle est la mesure qui explique le plus la baisse. Bon, on peut le faire avec des modèles économétriques, mais il faut surtout croiser, bien sûr, ces études générales avec des études spécifiques sur des mesures spécifiques. Donc nous, pour illustrer sur le paquet neutre, j'ai eu la chance d'avoir des contrats de recherche financés par... Institut Cancer, pour travailler là-dessus, on a utilisé à la fois des études qualitatives, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens en face à face, dans des entretiens de groupe, etc., ce qu'ils pensaient du paquet normal, marketé, ce qu'ils pensaient du paquet neutre, est-ce que ça leur donnerait plus ou moins envie d'arrêter de fumer, qu'est-ce que ça leur évoquait en termes de perception du risque, hein, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça leur évoquait également en termes de perception de la qualité du produit, parce que l'emballage, c'est pas un emballage, ça évoque aussi beaucoup de choses sur le contenant, hein, sur le tabac en lui-même. Donc on a fait des études de ce type. Ensuite, on a également fait des mesures quantitatives pour avoir des échantillons plus larges. Donc, on a utilisé les mêmes questions sur 1000, 2000, par exemple, personnes qu'on a interrogées à travers des enquêtes sur Internet. Ce qu'on a fait également, parce qu'il y a, on est uniquement sur du déclaratif, donc il peut y avoir des biais et les gens, ils peuvent vous dire des choses qui ne sont pas la réalité de ce qu'ils font. On a aussi testé, je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux femmes, sur des jeunes avec du tabac roulé, des femmes sur des paquets neutres, normaux, on leur a demandé pendant 10 jours de consommer leur tabac dans ces paquets-là neutres, donc tabac roulé neutre ou paquet neutre classique pour les femmes. Et on leur demandait très régulièrement ce qu'elles en pensaient. Donc on les a interrogées 2 ou 3 fois sur la période de 10 jours pour savoir leur ressenti par rapport à ce paquet neutre, etc. Ce qu'on a fait également, alors là plus sur les avertissements sanitaires choquants qui accompagnent le paquet neutre. Donc, je travaille beaucoup avec une équipe de l'Université de Rennes qui font des neurosciences et neuromarketing. Et on a testé également sur la réaction physiologique des gens, ce qui se passait au niveau de l'accélération du rythme cardiaque, etc., quand ils étaient exposés à des images plus ou moins choquantes sur les paquets de cigarettes. Donc, là aussi, on croise vraiment les données. Et puis également, on regarde au niveau national s'il y a une baisse des comportements ou pas, avec encore une fois, la difficulté d'associer la baisse à telle ou telle mesure. Mais avec un croisement de ces différents éléments, on arrive assez bien au niveau international, en tout cas au niveau de la recherche scientifique, à savoir les mesures qui fonctionnent le mieux et donc dans quel sens elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles ont comme impact sur les croyances, les comportements.
Karine Galopel, Morvan, on fait une pause musicale, à peine le temps de s'en griller une, avec Cigarettes After Sex, qui nous interprète John Wen.
Crazy, live it.
John Wayne, sublime morceau du groupe Cigarette After Sex à l'instant sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville. Nous nous intéressons en ce mois de février à l'impact du marketing sur la consommation de tabac. Dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur l'instauration du paquet neutre qui veut décourager les jeunes d'acheter leur premier paquet, ainsi que sur l'augmentation de son prix ou bien sur les campagnes de prévention. Dans les minutes qui vont suivre, vous entendrez comment les industriels du tabac répondent à toutes ces attaques. On évoquera aussi une autre question, celle de la cigarette dans les objets culturels, et puis on s'intéressera à la position de notre invitée sur ce sujet, Karine Gallopel-Morvan, professeure des universités en marketing social à l'EHESP, est-elle aussi une militante anti-clope? Elle répond à Christian Lebar et Colette David.
Dites-nous comment les industriels du tabac ont contre-attaqué face aux campagnes de prévention. Et aussi, comment ils se sont adaptés à l'évolution des nouveaux comportements des usagers?
Alors, depuis plusieurs décennies, les industriels du tabac ont beaucoup d'argent. C'est un produit qui rapporte énormément, donc les profits sont très forts. Les industriels du tabac, qui sont au final assez peu nombreux, hein, il y a 4 ou 5 grosses compagnies de tabac qui représentent 80-90% des ventes dans le monde, sont plus riches que beaucoup de pays dans le monde. Donc ils ont beaucoup d'argent pour faire du marketing, du lobbying, donc ils sont passés vraiment experts depuis plusieurs décennies pour essayer de contrer les mesures proposées par les gouvernements et pour déployer un marketing très efficace pour inciter les gens à arrêter de fumer. Ça, je le montre souvent, des courbes. On regarde le siècle dernier, fin du 19e siècle, très peu de gens fument. Et donc aujourd'hui, on est à des prévalences tabac dans beaucoup de pays très élevées, 30, 40, 50, 70%. C'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout la culture, c'est pas du tout naturel. On parle dans le tabac d'une épidémie industrielle parce que l'agent qui a diffusé les comportements tabagiques, c'est clairement l'industrie du tabac et l'argent et tout l'argent dont dispose l'industrie du tabac. Donc en comparant le marketing des industriels en général et le marketing de l'industrie du tabac, on se rend compte qu'ils sont précurseurs sur beaucoup de choses.
Hein, par exemple
voilà, par exemple, ils ont fait des campagnes qui ciblaient les femmes dans les années 1920-1930, parce que les femmes ne fumaient pas beaucoup à l'époque. Hein, les hommes commençaient à fumer assez massivement, mais pas beaucoup les femmes. Donc elles ont travaillé sur le côté minceur, par exemple, hein, en disant, voilà, il y a des campagnes qui datent des années 20-30 qui montraient une femme qui avait une silhouette très fine et une femme avec un double menton, voilà, qui disait, voilà, si vous fumez, vous n'aurez pas cette silhouette double menton. Fumez plutôt que de prendre un bonbon, fumez Lucky Strike ou autre. Donc ça, c'est vraiment très précurseur en marketing, hein, de cibler comme ça à ce point. Et l'industrie du tabac, dans les années 20-30, alors on a des témoignages qui existent, hein, qu'on peut récupérer sur des sites internet dédiés. Ils disaient, ah oui, les femmes, c'est une mine d'or, là. Regardez, elles ne fument pas assez, il faut faire en sorte qu'elles fument. Il faut vraiment faire des produits et des campagnes spécifiques pour ces publics-là. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple également, alors pour nous, ça nous paraît un peu banal, mais à l'époque, c'était également précurseur. Ils se sont dit, voilà, dans les années 40, 30, ils se sont dit, voilà, que regardent beaucoup les gens, où les gens vont beaucoup, c'est les manifestations sportives. Donc du coup, les responsables marketing et publicité de l'industrie de tabac s'est dit, ok, on va réfléchir à du sponsoring, c'est-à-dire on va nouer des partenariats dans des événements sportifs, golf, Formule 1, etc. Et on va apposer notre marque sur ces événements qui évoquent le côté sympathique, chaleureux, virilité pour la Formule 1, etc. Donc, et un autre exemple également qui probablement explique, un des facteurs explicatifs du succès de Marlboro. Bon, ils ont beaucoup de réflexions autour de leurs produits, hein, pour améliorer le goût. Et donc, Marlboro, dans les années 60, a mis de l'ammoniac dans son produit parce que des recherches en interne avaient montré que ça augmentait le niveau de dépendance à la nicotine. Donc, l'ammoniac est très intéressant parce que vous devenez plus vite dépendant, en fait. Et puis, évidemment, la campagne Marlboro que tout le monde connaît, l'univers Marlboro, donc l'association d'un produit qui est rien qu'un bout de bâton de tabac, quoi, à un univers qui évoque les États-Unis et tout ce qui peut y aller, tout ce qui peut avoir autour, le cow-boy, l'évasion, la liberté. Voilà, ça c'est une des campagnes publicitaires la plus efficace dans le domaine du marketing, au-delà du tabac.
On voit, entre autres, dans la série Mad Men, des grands publicitaires passer des heures et des nuits, tous fumant évidemment, à chercher le meilleur slogan pour attirer ou les hommes ou les femmes ou les jeunes, etc. Mais avec le développement des campagnes anti-tabac, comment est-ce que les cigarettiers ont essayé de contourner ça aujourd'hui?
Alors ça aussi, on peut avoir des informations très précises dans leurs documents internes. Hein, très clairement, dans les années 90, hein, c'est là qu'on a commencé par exemple à avoir des restrictions du marketing dans de plus en plus de pays. Bah, l'industrie du tabac va s'adapter et va non plus utiliser ce qu'on appelle les grands médias, hein, mais va utiliser ce qu'on appelle le hors-média, c'est-à-dire des supports publicitaires beaucoup plus discrets, parfois interdits. Hein. Par exemple, en France, la loi Evin interdit toute forme de publicité, mais l'industrie du tabac, depuis 1991, continue tout de même à faire de la publicité, mais dans des supports qui sont plus discrets et que les gens n'assimilent pas forcément
par
à
exemple,
la publicité. Bah, par exemple, le paquet de cigarettes. Voilà, le paquet de cigarettes, en marketing, on dit que c'est le vendeur muet. Le packaging a une influence très forte sur le comportement des individus, et l'industrie du tabac a beaucoup, beaucoup investi dans des études de marché, dans des études des perceptions, etc., pour savoir si, par exemple, il faut faire un paquet plutôt bleu ou plutôt rouge. Parce que si vous faites un paquet bleu, bah, les gens, ils ont l'impression que la cigarette à l'intérieur, elle est plus légère, et donc ils assimilent la légèreté du tabac à la nocivité moindre.
Christian.
Alors c'est amusant parce qu'au fond on est sur une problématique exactement symétrique à la précédente. On parlait tout à l'heure de l'évaluation de l'action publique, et là du coup la question qui est posée, alors qui est directement une question de marketing là vraiment au sens le plus classique du terme, c'est dans quelle mesure est-ce que ces stratégies donc développées par les industries du tabac, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'on est certain qu'elles font vendre ou qu'elles fassent vendre, et donc on fait confiance effectivement aux industriels du secteur en question pour faire preuve de tout le cynisme qui rend possible l'efficacité, mais est-ce que côté recherche on a aussi travaillé là-dessus?
Alors déjà, je pense qu'un premier point, il faut se dire qu'ils sont rarement philanthropes, hein, les industriels du tabac. Donc on se dit que s'ils dépensent de l'argent dans certaines formes de marketing...
On peut être d'accord sur cet énoncé, oui.
C'est qu'a priori, ça doit être efficace. Et puis ensuite... Alors,
ils peuvent se tromper quand même.
Oui, oui, c'est clair, ils peuvent se tromper. Ils se sont trompés. Hein. Il y a des exemples, il y a des flops hein, également dans leur... Alors, on a deux sources qui permettent de répondre à cette question-là. La première, et c'est spécifique au tabac, dans les années 90 aux États-Unis, il y a un film d'ailleurs qui retrace cette aventure. Il y a quelqu'un qui travaillait dans une industrie du tabac qui était très mal à l'aise avec les pratiques éthiques de l'industrie du tabac et qui a diffusé à la presse et aux journalistes tous les documents internes de cet industriel du tabac qui prétendait officiellement travailler sur des produits moins risqués alors que c'était totalement faux. Donc il en est sorti beaucoup de scandales dans la presse américaine, des procès également, parce qu'en fait ces documents internes montraient que l'industrie du tabac mentait très clairement. Donc il y a des États américains qui ont porté plainte contre l'industrie du tabac pour mensonge, parce que derrière le tabagisme, il y a évidemment des coûts pour les États et la santé. Donc il est sorti un procès qui s'appelle le Master Settlement Agreement, qui a engendré le paiement d'amendes très fortes de la part de l'industrie du tabac pour les mensonges qu'elles avaient réalisés depuis plusieurs décennies, et également la diffusion, et ça c'est très important, la diffusion de tous leurs documents internes sur des sites internet dédiés. Donc les chercheurs en Californie, etc., ont scanné des milliers de documents, des rapports marketing internes, des notes secrètes, etc., sur des sites internet complètement gratuits, complètement accessibles, qui existent encore aujourd'hui. Et donc, quand je fais des interventions, par exemple, sur le tabac auprès des étudiants ou autres, on cite très régulièrement des verbatims ou des témoignages de l'industrie du tabac. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le fait que les femmes, oui, c'est une mine d'or. Voilà, sur le paquet de cigarettes également sur les femmes, on peut trouver par exemple des études de marché qui disent « Ah oui, il faut vraiment travailler sur le paquet de cigarettes parce que les femmes, elles aiment bien avoir un beau paquet quand elles sortent pour compléter leur look féminin, etc. » Ou sur les jeunes, on trouve aussi dans ces documents internes des études qui disent « Ah, les jeunes, ils aiment bien les paquets originaux, donc il faut réfléchir à des formes originales, des paquets fluo, etc. » Donc ça, les documents internes, c'est une source extrêmement importante, à la fois sur le marketing et sur le lobbying. Et puis après, nous, on fait aussi, bien sûr, des tests. Par exemple, quand on a travaillé sur le paquet neutre, on testait en regard les paquets marketés. Donc on a à la fois les perceptions, les envies d'acheter, etc. des gens sur le paquet de cigarettes normal, marketé, en regard du paquet neutre. Et ça, ce que je dis, c'est vrai pour l'ensemble du marketing. Il y a pas mal, il y a une vingtaine de chercheurs dans le monde qui travaillent et qui décortiquent le marketing et l'influence du marketing de l'industrie du tabac sur les comportements et les perceptions des gens.
Avec filtre ou sans filtre, les Gitanes Caporal vous apportent sans réserve le plaisir de fumer.
Arrivé à ce moment de la discussion, évidemment, on a envie de vous poser une question. L'émission s'appelle Chercheur en ville. Vous êtes prof de marketing et vous ne cessez depuis le début de l'émission de dénoncer le marketing. C'est vrai qu'une des difficultés du marketing dans le monde des sciences sociales, c'est parfois un positionnement un petit peu ambivalent dans le rapport aux acteurs et en partie aux entreprises privées. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'ambivalence du tout, c'est le camp d'en face. Donc ma question, c'est à la fois quels effets ça produit en termes de positionnement dans le champ disciplinaire. Et puis deuxièmement, très concrètement, ça veut dire aussi que vous êtes un chercheur, une chercheure engagée.
Alors, moi, je ne suis pas en marketing, je suis en marketing social, déjà.
Je ne sais pas la différence.
Justement, le marketing social se positionne... Donc, c'est une discipline qui est assez peu développée en France. Hein. On est assez peu nombreux en France à travailler sur le marketing social, mais qui est, à l'inverse, plutôt développée en Europe et à l'international. Par exemple, il y a un très gros centre de marketing social en Écosse à l'université Stirling. Donc, je suis prof honoraire là-bas et je travaille beaucoup avec eux. Ils sont 15 chercheurs et travaillent seulement là-dessus. Donc, le marketing social, c'est l'utiliser les techniques du marketing, mais dans un objectif social, c'est-à-dire pour inciter les gens à se comporter mieux, entre guillemets, par rapport à leur santé, par rapport à l'intérêt général. Moi, Sans Tabac, c'est un exemple de programme qui a été fondé à partir du marketing social. Donc, ils ont suivi les mêmes démarches de marketing que les entreprises, sauf que là, c'était pour inciter les gens à arrêter de fumer.
Là, c'est la course aux armements.
On se dit... Alors, le principe du marketing social, c'est de se dire, les industriels, ils n'arrivent pas, effectivement, ils n'arrivent pas à leur objectif à chaque fois, mais globalement, il y a quand même beaucoup de preuves que le marketing fonctionne. Donc, peut-être qu'on pourrait utiliser les mêmes outils, mais pour inciter les gens à se comporter à l'inverse. Hein, arrêter de fumer, conduire moins vite, boire moins d'alcool, etc. Donc, c'est le principe du marketing social. Donc, moi, ça fait près 20 ans que je travaille là-dessus. Mais effectivement, au début, j'ai un doctorat en marketing marchand. Je n'étais pas forcément très à l'aise avec ça. Je pense que c'est pour ça que je suis partie en marketing social. Et je suis une chercheuse engagée. Disons que je ne fais pas de militantisme ou autre, évidemment, mais forcément, quand je suis interrogée par les médias, les journalistes ou les pouvoirs publics dans des conférences, on me demande forcément mon avis sur des sujets très polémiques.
Mais ça vous arrive d'affronter les industriels du tabac ?
Alors, pas en direct. pas en direct, parce que de toute façon, les industriels du tabac s'expriment très peu en direct. Ce sont souvent les buralistes qui apparaissent dans les médias. Donc, j'ai dû avoir une ou deux occasions peut-être d'être dans des débats en face des buralistes. Mais souvent, au niveau de la presse, oui, on me demande mon avis, puis on me demande l'avis d'un buraliste en face ou d'un industriel du tabac. Alors, moi mon positionnement, c'est celui d'un chercheur. Alors, c'est vrai qu'on est en santé, donc on est plus probablement sollicité dans la société civile que d'autres chercheurs sur d'autres sujets. Mais mon positionnement, c'est de rester toujours sur les résultats scientifiques.
Question simple, vous fumez ?
J'ai fumé. Et en fait, je suis arrivée sur ce sujet parce que justement, je fumais. Donc, quand j'ai terminé mon doctorat en marketing marchand, j'étais pas très à l'aise avec le côté manipulation du marketing. Je me suis dit, je vais travailler sur le marketing social. Il y avait pas mal de travaux que j'avais vus sur la sécurité routière à l'époque. Et comme j'étais fumeuse, je me suis dit, ah, tiens, je vais appliquer ça sur le tabac. Donc, ça a eu deux conséquences. La première, c'est que j'ai arrêté de fumer. Donc, comme quoi, ça marche. Peut-être un peu ce que je fais. Et la deuxième, c'est que je suis tombée dans une autre addiction qui était la recherche sur le tabac et sur l'alcool maintenant.
Est-ce que les cigarettiers ont tenté de vous approcher, de vous manipuler, de vous séduire, de vous démontrer que leurs produits ne sont pas si nocifs que ça ? Ou que vous exagérez ?
Non, plutôt que j'exagère, oui. Non, pas du tout. Je n'ai eu aucun contact direct avec les cigarettiers ou les buralistes. En revanche, un exemple récent sur le paquet neutre, ils avaient fait une brochure diffusée aux députés sénateurs ou qui était présentée sous la forme de vrai-faux. J'étais très flattée d'ailleurs parce que j'étais citée en même temps que Marisol Touraine. Mais donc, il y avait des déclarations de Marisol Touraine sur le paquet neutre où donc il disait faux, voilà. Et puis des déclarations de Karine Gallopel-Morvan où en fait ils extrayaient une phrase de mes recherches, évidemment en oubliant complètement le contexte, en disant vrai-faux. Donc, il y a eu ça. Et puis, ils ont un site également qui est alimenté. Donc, derrière, il y a les buralistes qui s'appellent Le Monde sans tabac. Donc, je suis souvent, quand j'interviens dans les médias, par exemple, je suis souvent décrit en disant « Oh, elle a des arguments trop théoriques, oh, mais elle n'y comprend rien, etc. » Donc, oui.
Et alors, si vous n'êtes pas amené à discuter directement avec les industriels tabac, est-ce que vous êtes amené à discuter avec les pouvoirs publics? Est-ce que votre expertise est convoquée?
Oui, alors ça, c'est peut-être aussi, pour les chercheurs, des signes positifs. Je trouve que depuis que je travaille sur ces sujets, depuis 20 ans, les acteurs du terrain, les politiques, les élus, demandent de plus en plus à s'inspirer, en tout cas en santé, en tabac, hein, je ne sais pas ailleurs, mais demandent de plus en plus des résultats de recherche pour pouvoir aider à leur prise de décision, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément très évident en France.
Donc ça veut dire des financements aussi, recherches collectives
Oui, absolument, des financements. J'ai la chance d'avoir régulièrement des financements pour travailler sur le tabac et l'alcool, et puis également des invitations dans des conférences à l'Assemblée nationale. Donc en France, ça c'est très clair. Sur le paquet neutre, j'ai été très souvent sollicitée. Je suis également beaucoup sollicitée ces derniers temps par les pouvoirs publics sur l'alcool. Et la loi E20 qui a été beaucoup affaiblie ces derniers temps. Et puis également à l'international, il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques spécifiques, mais on est régulièrement sollicité par l'OMS, par l'Union européenne. Donc j'ai été impliquée dans un groupe de travail à l'OMS sur la publicité pour l'alcool il y a quelques temps. Et puis sur le tabac, j'ai travaillé au niveau de l'Union européenne dans des groupes d'experts sur les avertissements sanitaires.
Puisque vous parlez tabac et alcool, deux choses qui vont parfois très bien ensemble, quelles différences et similitudes en termes de marketing du côté des fabricants, que ce soit les cigarettiers, les viticulteurs, etc. Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent ?
Alors, ce qui est différent, déjà, c'est le produit. Hein. On n'est pas du tout sur les mêmes drogues, hein. Faut quand même le rappeler. La nicotine, en termes de pouvoir d'accroche, on est à peu près la même chose que l'héroïne, hein, sur le pouvoir d'accroche. Il y a très peu de fumeurs occasionnels. Hein. On a 95% des fumeurs en France qui sont fumeurs quotidiens. Donc c'est pas parce qu'ils le veulent, c'est vraiment que la nicotine accroche autant que l'héroïne. L'éthanol, le pouvoir d'accroche est beaucoup moins fort. On a beaucoup moins de gens qui tombent dans l'alcoolisme que de gens qui tombent dans le tabagisme régulier et quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, enfin, on est encore à des chiffres élevés en France et on n'est vraiment pas bien placé au niveau européen. Il y a encore beaucoup de gens qui boivent beaucoup trop, mais voilà, la drogue n'est pas la même. Donc ça, c'est la première différence. Après, au niveau des stratégies marketing, donc ça fait 6-7 ans que je travaille sur l'alcool avec des doctorants notamment, c'est intéressant de voir un certain nombre de similitudes, alors à la fois sur le produit, hein, par exemple, l'industrie de tabac a fait des produits sucrés pour attirer les jeunes, a fait des produits light pour attirer les femmes, l'industrie de l'alcool fait la même chose, donc fait des prémixes, des vins Coca-Cola, rosé sucette, vin sucette, donc c'est des produits qui existent, vin Coca-Cola, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais peut-être les jeunes aiment bien, c'est sucré en tout cas, des produits light aussi, hein. Les alcooliers font du light par rapport à des histoires de calories pour cibler les femmes. Sur le packaging, j'ai vu quelques similitudes aussi assez troublantes, hein. L'industrie du tabac s'est beaucoup inspirée de l'industrie du luxe pour des packagings. L'industrie de l'alcool, qui essaye de cibler beaucoup les femmes, fait la même chose, hein, avec des bouteilles qui ressemblent à des parfums, etc. Des noms pinky.
Rose et tout.
Rose, très très caricatural. Et puis, un autre exemple également, c'est un paquet de Lucky Strike, par exemple, qui devenait fluo la nuit. Heineken a fait la même chose. Donc, et alors, en termes de lobbying, on travaille pas mal sur le lobbying en ce moment, de l'industrie du tabac et de l'alcool. Et alors, on retrouve des similitudes très claires entre les stratégies de lobbying de l'industrie du tabac et de l'industrie de l'alcool. Ça, il y a des similitudes extrêmement fortes.
Lesquelles ? Rapidement, parce qu'on voudrait après passer...
Bah, par exemple, de toucher, d'avoir des arguments, ça marche pas, c'est pas efficace, donc sur, que ce soit la pub, le paquet neutre, les avertissements, etc. Et puis également, toutes les campagnes de prévention, on appelle ça responsabilité sociale des entreprises. Les industriels vont faire des campagnes de prévention pour dire regardez, nous on a changé, nous on est bien, on fait attention, on veut pas que les jeunes boivent, on veut pas que les jeunes fument. Et en fait, ça c'est typiquement des politiques de lobbying dont l'objectif est d'arriver dans des instances de prévention parce que bah, légitime puisqu'ils font des campagnes. Donc ça, l'industrie du tabac l'a fait plusieurs fois et de régulièrement, et l'industrie de l'alcool fait de la même façon, développe de la même façon les mêmes actions.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Tu es un fumeur.
En novembre, la sénatrice socialiste de la Sarthe, Nadine Grelet-Certenay, a déclaré qu'il fallait non seulement frapper les fumeurs au porte-monnaie, mais, je cite, « s'intéresser aux incitations culturelles à fumer, en particulier au cinéma qui, dit-elle, favorise la pratique ». Juste récemment sur nos écrans, il y a eu le film « Au revoir là-haut ». Et dans ce film... se termine après la guerre 14, dans 18-19. On voit par exemple Albert Dupontel, qui est moitié dans la débine et qui devient homme sandwich. Il arpente Paris avec deux pancartes pour les cigarettes Davis. Et je vous dis le slogan. Asseyez-vous et aspirez, moment précieux assuré. Ça, c'est encore dans les salles en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention de cette sénatrice? On se souvient des polémiques concernant des affiches Sartre et le philosophe Jean-Paul Sartre qui avait été on lui avait ôté sa cigarette du bec.
Malraux aussi.
Malraux, pareil. Monsieur Hulot, c'est quoi ça?
Alors ça c'est deux choses. La première c'est une réalité parce que c'est ce que disait la sénatrice, il y a des observatoires qui ont été faits dans différents pays dont la France, hein, c'est la Ligue contre le cancer qui avait fait ça par exemple, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de gens qui fument dans les films et plus troublant, des marques très présentes et très visibles dans les films. Alors ça c'est une réalité, le problème si vous voulez... que ça entraîne, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études, je vous disais, il y a eu des études sur le paquet de cigarettes, mais il y a aussi beaucoup d'études de la part des chercheurs sur l'impact de la présence du tabac dans les films. Et il est certain aujourd'hui que ça augmente les envies de commencer à fumer et ça augmente aussi l'envie de fumer pour les gens qui fument déjà ou pour les gens qui ont arrêté de fumer. D'où la difficulté et d'où l'intérêt de cette intervention et la remarque de la ministre de la Santé qui s'en est suivie. Donc, alors cette stratégie, donc ça c'est le premier point. C'est important de faire quelque chose parce que c'est très clair qu'il y a une présence très forte aujourd'hui des produits et des marques du tabac et des comportements tabagiques dans les films. Au-delà même de ce qu'on voit dans notre société, enfin moi on avait fait une petite étude, hein, pas du tout scientifique, mais avec des étudiants dans le cadre d'un cours, et on voyait des choses invraisemblables aujourd'hui, dans des films qui se situaient aujourd'hui, hein, des gens qui fumaient dans les maternités, dans les hôpitaux, enfin, c'est invraisemblable, on voit plus ça aujourd'hui, quoi. Donc il y a cette tendance-là. Alors, pour qui, pourquoi? Ça, c'est compliqué de dire pourquoi on a autant de gens qui fument dans les films et au-delà de la proportion du pourcentage de la population. Il y a deux explications possibles. Soit ce sont les producteurs pour plus de réalisme, etc. Et puis, ce sont des milieux qui sont probablement plus fumeurs que les autres, hein, donc voilà, qui mettent de la cigarette à l'écran. Il y a une deuxième raison également. Et on parlait tout à l'heure de stratégie marketing. L'industrie du tabac a été parmi les premières industries à travailler avec les leaders d'opinion et les vedettes du cinéma, à la fois à travers des campagnes publicitaires dans les médias classiques, mais aussi en payant les acteurs pour que les acteurs fument dans leurs films. Donc Silver Salon, par exemple, il y a des contrats qui ont été retrouvés dans les documents internes où ils s'engagent à fumer telle marque voilà, pendant 5 films.
Oui, mais Christian, d'abord.
Alors oui, c'est intéressant, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas toute l'explication si on s'arrête à ça, parce qu'on passe un petit peu à côté du fait que le tabac, ce n'est pas que la nicotine, si j'ose dire, c'est aussi un imaginaire. Et voilà, qui s'est construit alors en référence à la fois à la figure du cow-boy, à une certaine masculinité, à une certaine féminité, comme vous le disiez aussi très, très justement tout à l'heure. La première cigarette comme rite de passage à l'âge adulte. Enfin voilà, la cigarette, ça condense des imaginaires de façon absolument incroyable. Imaginaire romantique, imaginaire adolescent, etc. Et donc là, pour le coup, moi je pense plus au film de Claude Sautet, enfin. Je veux dire,
Edward Hawkes.
Je n'ai jamais fumé. J'ai toujours été fasciné par les cigarettes dans les films de Claude Sautet, que j'adore. Donc voilà. Comment on travaille là-dessus alors?
Pour prolonger la remarque de Christian, typiquement au cinéma, la cigarette, elle a un intérêt dramatique. Elle a un intérêt de séduction. Enfin, vraiment, la fameuse scène du port de l'angoisse entre Lauren Bacall et Humphrey Bogart. Il n'y a pas le paquet d'allumettes ou le briquet. Ça ressemble plus à rien.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir absolument le tabac.
C'est là où le personnage prend 2 secondes.
Non, mais là où la sénatrice et Agnès Buzyn ont raison. C'est que le problème, ce n'est pas en soi la présence du tabac dans les films. Le problème, c'est qu'on a une présence très forte du tabac dans les films qui est au-delà de la réalité des films.
On est dans la fiction.
Oui, mais peu importe. Mais derrière, du coup, il y a l'idée, est-ce que c'est vraiment le producteur, le réalisateur qui propose ça, ou est-ce que c'est payé, est-ce que c'est une stratégie marketing derrière? Parce que le problème des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est qu'ils montrent très clairement que plus vous êtes exposé dans les films à des marques de tabac et à des comportements tabagiques, et plus ça donne envie aux jeunes de fumer, plus ça donne envie aux fumeurs de fumer et aux anciens fumeurs de fumer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et surtout, on ne sait pas aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes sur le fait qu'il y a encore des transactions commerciales et encore des contrats qui sont passés entre les industriels du tabac et des sociétés de production. On n'a pas de preuves écrites, évidemment, parce que c'est interdit, et voilà, donc ce serait au-delà de la loi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, on laisse cet état de fait, et on sait très bien que ça continue, que ça a une influence sur les comportements des gens, ou alors on informe les gens sur le fait que ça peut être l'industrie du tabac qui est derrière, que l'industrie du tabac a fait pendant plusieurs décennies ce genre de placement de produits dans les films, donc peut-être que s'ils l'ont fait, c'est que c'est efficace très probablement et qu'ils continuent à le faire de manière cachée. Et il faut peut-être aussi, moi c'est ce que je dis par rapport à ce sujet, il faut aussi probablement informer les réalisateurs ou autres sur le fait que ça a une influence très claire sur les individus. Alors vous disiez oui, on voit dans... Alors, moi il y a certains films où je comprends très bien que la cigarette puisse avoir un rôle, je sais pas, un flic un peu stressé, tout ça. Mais comme je vous disais, encore une fois, dans une maternité où voilà, on voit plus de gens fumer aujourd'hui, quoi. Une femme enceinte, quel est l'intérêt? Voilà, quel est le... C'est pas la réalité, quoi. C'est pas la réalité. Donc, est-ce que c'est vraiment la liberté de... C'est le réalisateur qui a mis ça pour... Ou est-ce qu'il y a derrière l'industrie du tabac? Moi, c'est ça qui me pose problème.
Dit comme ça, on sera tous d'accord. Le problème, c'est la tension avec aussi la liberté. Est-ce que c'est pas maladroit de la part d'un politique d'intervenir dans la liberté
artistique
quand même?
Je pense qu'Agnès Buzyn, elle avait derrière, parce qu'elle connaît bien le problème du tabac, hein, elle est au courant derrière de ces problèmes de placement de produits, de transactions avec l'industrie du tabac sur le placement de produits dans les films et des marques.
Quand on a voulu enlever à Lucky Luke sa cigarette, c'est absolument hallucinant. Personne n'envisageait de lui enlever son flingue. On préfère quand même une société où tout le monde fume à une société où tout le monde a un colt à la ceinture.
Alors là-dessus, c'est extrêmement intéressant de revenir sur ces sujets, donc Sartre, etc. J'ai un exemple, Monsieur Hulot, il y a une affiche donc, dans le métro où on le voyait avec sa pipe pour faire la pub d'une exposition à Paris. Qui a demandé d'enlever la cigarette, de la pipe de Monsieur Hulot? Qui? Absolument pas les associations anti-tabac, absolument pas les gens militants ou autres. En fait, c'est la direction de la communication de la RATP qui a décidé d'enlever, soi-disant parce que la loi Évin empêchait la présence de cette pipe. Mais c'est complètement faux, et Claude Évin était intervenu là-dessus. C'est totalement faux. La loi Évin n'a jamais dit qu'il était interdit d'avoir de la cigarette sur des films, sur des affiches. La loi Évin a dit qu'il était interdit d'avoir des transactions entre l'industrie du tabac et donc du marketing, où l'industrie du tabac paye des acteurs dans les films, pour faire apparaître la cigarette dans les films. Et les associations anti-tabac étaient complètement contre le fait d'enlever la pipe de Monsieur Hulot. C'était ridicule. Donc, alors, il y a eu des explications de cette histoire-là, et Sartre, etc., de la même façon. C'est exactement le même tableau. On pense, enfin les associations pensent que derrière il y avait l'industrie du tabac qui justement pour énerver les gens parce que c'est ridicule ces histoires-là, montait au créneau pour montrer à quel point la loi Évin était ridicule et allait trop loin. Et ça a d'ailleurs failli marcher hein, sur cette histoire de Monsieur Lowe. Claude Évin était obligé d'intervenir pour dire mais non, la loi Évin c'est faux, elle n'est pas du tout contre ça. Donc, et derrière l'argument hein, de l'industrie du tabac, c'est-à-dire faut enlever la loi Évin, regardez, tellement, elle est tellement liberticide, faut arrêter. Elle va trop loin. Oh non, la loi Évin n'a jamais dit ça.
Karine Gallo-Palmer, on vous remercie infiniment. Merci Christian Lebar et notre réalisateur Ronan Lemouer. Et rendez-vous pour Chercheurs en ville sur Canal B au mois de mars.